Maintenant, on passe au message. Vous savez qu'on est en train d'étudier la vie de Joseph. Je ne dis pas que le frère, il a copié de moi, ou moi, je copiais du frère. Mais comme lui, je lis ce qu'il y a dans la parole et j'en retire le jus. C'est ce qu'il me fait du bien. C'est ça ce qu'il a fait. Ce n'est pas des enseignements, ces choses-là. Alors, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Genèse 37. On va lire du verset 16. Jusqu'à la fin. Voilà, la semaine dernière, on s'est arrêté que Jacob, il envoie Joseph à chercher ses frères. Ils étaient partis pour paître les troupeaux, et Joseph, il a été envoyé par Jacob, et là, c'est la dernière fois qu'il le voit. Et Jacob, il part à la recherche de ses frères. On l'a vu la semaine dernière, dans 15 jours. Il est parti de Hébron, que c'est la communion. Jésus, il était en communion avec Dieu le Père, et il a été envoyé pour chercher ses frères. Ses frères, le peuple juif. Il est venu parmi les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Il est parti de Hébron pour aller à Sichem, parce que ses frères, ils étaient à Sichem. Sichem, ça veut dire l'épaule, l'autorité. Et ça, il dit que Jésus, il a été envoyé du ciel pour devenir le Messie, le roi d'Israël, instaurer les royaumes. Mais en allant à Sichem, il s'est perdu, il a rencontré des gens et il lui a dit « Avez-vous mes frères ?» Et il lui a dit, ils sont partis à Dothan. Et Dothan, ça signifie la loi. Jésus, il est venu du ciel pour instaurer les royaumes, mais lorsque les temps furent accomplis, Jésus, il est venu et il a vécu la loi. Chose que nous ne pouvons pas faire, mais Jésus, il l'a accompli pour nous. Les Juifs, ils n'en ont pas voulu et ils l'ont crucifié. Voilà. Et ici, au verset 16, regardez. Il dit, un homme le rencontra comme il errait dans le champ. Il le questionna en disant, que cherches-tu ? Joseph répondit, je cherche mes frères. Dis-moi, je t'ai pris, où ils font paître les troupeaux ? Et l'homme dit, ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire, allons à Dothan. Joseph alla après ses frères, et il les trouva à Dothan. Ils le virent de loin, et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de les faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, voici les faiseurs des songes qui arrivent. C'est par rapport au songe qu'il avait fait. On en a parlé, on ne va pas revenir, sinon on est là jusqu'à 2h30, il est temps de partir tous ensemble à la maison de retraite. Voilà ce qu'il dit. Voici les faiseurs des songes qui arrivent. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré. Et nous verrons ce que deviendront ces singes. Roubain entendit cela et il le délivra de leurs mains. Il dit, ne lui ôtons pas la vie. Roubain leur dit, ne répandez point le sang. Jetez-les dans cette citerne qui est au désert et ne mettez pas la main sur lui. Il avait dessein de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils le prirent et ils le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide. Il n'y avait point d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galaad. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, des baumes et des myrrhes qu'ils transportaient en Égypte. Alors Judas dit à ses frères, « Que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang ? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. » Et ses frères l'écoutèrent. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne, et ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites qui l'amenèrent en Égypte. Ruben revint à la citerne, et voici Joseph n'était plus dans la citerne. Il déchira ses vêtements, retourna vers ses frères et dit, « L'enfant n'y est plus, et moi, où irai-je ? » Ils prirent alors la tunique de Joseph, et ayant tué un bouc, ils plongèrent la tunique dans le sang. Ils envoyèrent à leur père la tunique de plusieurs couleurs, en lui disant ceci, « Voici ce que nous avons trouvé. Reconnais si c'est la tunique de ton fils ou non. » Jacob la reconnut et dit, « C'est la tunique de mon fils. » Une bête féroce l'a dévorée. Joseph a été mis en pièces, et il déchira ses vêtements. Il mit un sac sur ses reins, et il porta longtemps le deuil de son fils. Tous ses fils et toutes ses filles virent pour les consoler, mais il ne voulut recevoir aucune consolation. Il disait, « C'est en pleurant que je descendrai vers mon fils au séjour des morts. » Et il pleurait son fils. Les Madianites les vendirent en Égypte à Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes. Voilà, j'aimerais vous parler de... Nous allons considérer tous ces personnages qui tournent autour de Joseph dans cet épisode. Oh, il y en a 4. Et on va voir que les caractéristiques de ces personnages sont les mêmes. Ils ont les mêmes caractéristiques de ceux qui étaient autour de Jésus-Christ sur la croix. Qui c'était ces personnages? Le premier, c'est Ruben. Le deuxième, c'est Judas. Le troisième, c'est les Ismaélites et les Madianites. Et le quatrième, c'est les frères de Joseph. On va voir chaque personnage qui tourne autour de Joseph, qui a eu une importance dans ce qui est arrivé à Joseph. Et on va voir que ces mêmes personnages, ces mêmes caractéristiques, ils étaient parmi les personnes qui étaient derrière Jésus-Christ. Premièrement, c'est Ruben. Qui était Ruben? Ruben était le premier-né de Jacob. C'est-à-dire, c'est le premier fils qui est venu. C'est le fils de Léa. Hein? Et dans l'Ancien Testament, le premier-né, il était consacré à l'Éternel. Hein? Il nous est dit dans Exode 13, verset 2, voilà ce qu'il dit le Seigneur. L'Éternel parla à Moïse et il dit, « Consacre-moi tout premier-né parmi les enfants d'Israël. » Tant des hommes que des animaux, ils m'appartiennent. Et tout premier-né, il lui appartient. Et oui, nous aussi, nous appartenons au Seigneur. Nous aussi, nous appartenons au Seigneur. Pourquoi est-ce que tous les premiers-nés, ils appartenaient à Dieu? Parce que dans la nuit où ils sont sortis d'Égypte, Dieu, avec la 10e plaie, il a épargné tous les premiers-nés. Vous savez que l'ange destructeur, il est passé, et les maisons où il y avait les sangs sur les linteaux de maison, l'ange destructeur, il n'est passé pas. Donc, tous les premiers-nés des Juifs, des animaux et de tout, ils appartiennent au Seigneur parce qu'il les a épargnés. Et nous, comme eux, nous sommes les premiers-nés. Jésus, c'est le premier en toutes choses et nous, nous sommes les enfants de Dieu. Pourquoi est-ce que tout s'il leur appartenait? Parce que Dieu, il les a rachetés. C'est-à-dire, il les a épargnés. L'ange destructeur, il ne les a pas pris. Et nous avons été aussi rachetés par tous ceux qui ont Jésus. Et je vais me permettre, oui, j'espère que personne ne va s'offenser, et de vous dire que vous êtes tous des ânes. Pas vous êtes, nous sommes tous des ânes. Je dis, ado, qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi tu nous dis ça? Ouvrez vos Bibles. Exode chapitre 3, chapitre 13, le verset 11. Quand l'Éternel t'aura fait entrer dans le pays des Cananéens, comme il a juré à toi et à tes pères, et qu'il te l'aura donné, tu consacreras à l'Éternel tout premier-né. Même tout premier-né des animaux que tu auras, le mâle appartenant à l'Éternel. Verset 13. Tu rachèteras avec un agneau tout premier-né de l'âne. Et si tu ne le rachètes pas, tu lui briseras la nuque. Vous avez compris pourquoi je vous ai dit que nous sommes tous des ânes. Nous avons besoin d'être rachetés. Par qui et par quoi? Par un agneau. Et qui c'est l'agneau qui nous a rachetés? C'est Jésus-Christ. Et si on ne se fait pas racheter par Jésus-Christ, si on ne l'accepte pas en tant que Seigneur et Sauveur, nous allons mourir. Oui, nous sommes tous des ânes. Si nous n'avons pas le Seigneur Jésus, nous allons mourir. Mais si nous laissons Jésus nous racheter, nous allons vivre. Rappelez-vous ce verset, Exode 13, 13. Tout âne, il doit être racheté. Pourquoi les ânes? On peut se demander pourquoi il a nommé les ânes. Parce que justement, l'homme n'est rien. Moi, je suis très instruit, vous savez. Non, tu es un âne. Parce que tu as besoin d'être racheté. Et nous l'avons été par et à travers Jésus-Christ. Voilà, nous avons été rachetés. Rubin, il était le premier-né, donc il a dû être racheté. Un agneau, il a dû être immolé pour qu'il puisse avoir, puisse être racheté. Parce que c'était le premier-né. Les premiers-nés, ils appartiennent à Dieu. Et chaque premier-né, il devait être racheté. Autre chose de Rubin, hein, c'est qu'en tant premier-né, il avait les doubles d'héritage. Hein, heureusement que ce n'est pas comme ça aujourd'hui, n'est-ce pas? Il y aurait tant de luttes dans la famille, même s'il y en a quand même. Hein, parce que lorsqu'il y a à partager, hein, tout le monde se jette dessus. Hein. Mais à cette époque-là, dans l'Ancien Testament, il avait les doubles. Et vous savez, nous, en tant que chrétiens, nous sommes premiers-nés, nous avons été rachetés par un agneau, et nous avons un héritage dans les cieux. Et personne ne peut nous l'enlever, parce que c'est un héritage des dieux. Mais c'est ce qu'il y a ici. Qu'est-ce qui est arrivé à Rubén? C'est que Rubén, il a perdu ses droits. Pourquoi? Parce que Rubén, il a commis un péché contre son père. Et ce péché-là, c'est que Rubén, il a couché avec la concubine du père. Il a souillé le lit de son père. Et alors, il a perdu ce double héritage et cette primauté dans la famille. Mais nous, c'est ce qu'il y a de différent de nous avec Ruben. Ruben, il a perdu à cause du péché. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, personne et rien, il peut nous faire perdre cette primauté que nous avons et cet héritage que chacun de nous, il a reçu de Jésus-Christ. Parce que nous avons cette assurance qu'il n'y a rien et personne, il peut nous enlever tout cela. Vous voyez comment d'un personnage, si on connaît l'histoire, on peut en retirer des enseignements qui peuvent réjouir notre cœur. Ruben, c'était quelqu'un qui avait le cœur, un double cœur. On a lu, à un certain moment, il a dit, « Oh, ne tuons pas notre frère, il est notre chair, il est notre frère. » Jetons-le dans une citerne. Hein? Mais dans son idée, c'est qu'ensuite, lui, il aurait été et il aurait retiré. Parce que c'était le premier-né, donc il était responsable. Mais ses frères, ils ne raisonnaient pas comme ça. Donc ici, il avait le cœur partagé. C'est-à-dire qu'il aimait sa famille, il aimait son frère, mais il aimait aussi l'argent. Et il y en a beaucoup aujourd'hui de chrétiens hein, qui aiment Dieu et ils aiment aussi Mammon. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui aiment Dieu, mais ils aiment aussi le monde. Et pourtant, la Bible est claire. Hein, c'est lui qui aime le monde, il n'aime pas Dieu. On ne peut pas avoir un pied dans le monde et un pied dans l'Église. Aujourd'hui, vous savez l'espérance de l'Église, quelle est? Que le Seigneur y revienne nous prendre. C'est ça notre espérance. Il y a beaucoup de chrétiens qui disent « Oui, le Seigneur, il va venir ». Mais attends un peu, Seigneur, je n'ai pas classé mes enfants, je ne suis pas encore arrivé, je n'ai pas encore ça. Voilà, c'est qu'ils se plaisent où ils sont. Mais il a suffi qu'il arrive l'argent et la chose. Et Ruben, il est tombé dans le péché de la chair. Et le péché de la chair, il nous fait perdre notre héritage. C'est ce qui est arrivé à Ruben et c'est ce qui arrivera à chacun de nous si nous nous laissons entraîner vers ces choses-là. Car le Seigneur, il est clair du commencement jusqu'à la fin. Il a donné une femme à Adam. Une femme, pas plusieurs femmes. Et il lui a dit, tu resteras avec elle. C'est elle que je te donne en tant que femme. Il ne faut pas aller chercher ailleurs. On parle toujours, l'homme cherche la femme. Mais aujourd'hui, on vit dans un monde où la femme cherche l'homme aussi. On met tout sur le dos de l'homme. Mais aujourd'hui, avec cette libération de mœurs, c'est devenu très difficile. Vous savez, ma femme me le dit toujours, hein, lorsque la femme il veut, hein, l'homme il tombe. Hein. Et c'est vrai ça. C'est vrai ça. Et vous savez, aujourd'hui, vous n'avez pas besoin de... J'ai vu l'autre fois au métro, une femme, une jeune fille, pas une femme, il avait sa jupe tout là-haut là. Je me suis permis de lui dire, mais vous ne pouvez pas me couvrir là. Mais de quoi je me mêle? Voilà. Non, mais voilà, c'est pour vous expliquer un peu dans quel monde on vit. Et vous savez, aujourd'hui, lorsqu'on tombe dans ce péché-là, on perd l'héritage. Il nous est dit dans un Pierre, les convoitises charnelles font la guerre à l'âme. Lorsqu'on a en nous ces convoitises charnelles, notre âme n'est pas en paix. D'ailleurs, il nous est dit, les impudiques n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Et aujourd'hui, on vit dans un monde impur. On me dit, mais j'ai les yeux, j'ai bien le droit de regarder. Oui, tu regardes, oui, mais pas de fixer tes yeux. Parce que si, juste en regardant, on ne pêche pas. Et aujourd'hui, vous êtes en voiture devant la télé, paf, qu'est-ce que vous voyez? Ben, voilà. Vous voyez ces choses-là. C'est normal, on a les yeux, il faut voir ces choses-là. Mais lorsqu'on commence à fixer nos yeux dessus, là tout de suite, ding, 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 ding. Et c'est ça qu'il faut éviter. Et malheureusement, c'est ça. On dit, oui, on utilise la femme pour ces choses-là seulement. Mais pourquoi les femmes s'y donnent? C'est la faute de tous, hein? Parce qu'on vit dans un monde pervers. Pervers. Voilà pourquoi le Seigneur, il n'arrête pas de nous dire, vous n'êtes pas du monde. Ne vous conformez pas au temps présent. Et Ruben, c'était comme ça. Il avait péché vis-à-vis de son père. Et il a perdu l'héritage. Et vous savez, hein, il aimait son frère, oui, il l'aimait, parce qu'à un certain moment, il a dit, nous n'allons pas les tuer, nous n'allons pas nous remplir les mains de sang de mon frère. Jetons-les dans une caverne, voilà. Et ensuite, il voulait les délivrer. Mais lorsqu'ils sont passés, ces Madianites, tout de suite, ils l'ont vendu. Vous savez, lorsque on est un peu du côté de Dieu et un peu du côté du monde, on est perdu. Il nous est dit dans 1 Roi 18, le peuple d'Israël, qu'il était comme pendant les périodes des juges. Lorsque les juges ils étaient vivants, voilà, ils étaient fidèles à l'Éternel. Lorsqu'ils mouraient, alors ils étaient infidèles à l'Éternel. Et c'est là qu'un prophète il dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Et c'est ce qui est arrivé à Ruben. C'est des gens qui sont un peu avec le Seigneur et un peu avec nous. Et c'est ça que ces gens-là, c'est des gens hypocrites. C'est les hypocrites. Et Ruben, c'était un hypocrite. Et les gens qui étaient autour de Jésus, c'était des hypocrites. Vous savez, c'est le moment maintenant, hein, c'est à Pâques, hein, lorsque Jésus il est monté avec la croix, il est tombé à certains moments, il y avait des femmes qui pleuraient, et il y a quelqu'un qui a essayé de le souiller le visage. Et il a dit, femme, il a dit, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vos propres péchés. C'était des gens qui, ils voulaient montrer leur attachement au Seigneur, mais ils ne faisaient rien. Voilà, être hypocrite, c'est quelque chose que le Seigneur aborde. Il n'aime pas du tout. Être hypocrite, c'est porter un masque. Un masque. Et nous ne devons pas porter des masques. Nous devons montrer ce que nous sommes vraiment. Comme je vous dis toujours, si seulement nous puissions avoir conscience de ce que nous sommes, des enfants de Dieu, des dispensateurs, des héritiers, alors notre vie, elle serait différente. Mais prenons le deuxième personnage, Judas. Judas, c'est celui qui a lancé l'idée de vendre Joseph. C'est lui qui l'a lancé. Hein? Judas signifie qu'il soit loué l'Éternel. Ou alors que Dieu soit loué, à la louange de Dieu. Ça, c'est la signification de Judas. Savez-vous que Dieu, il nous a sauvés aussi pour cela. Regardez ce qu'il nous dit dans Éphésiens 1, verset 12. Il nous a sauvés afin que nous servions à la louange de sa gloire. Judas, ça signifie à la louange de Dieu. Et nous avons été sauvés pour la louange de Dieu. C'est-à-dire que notre vie doit manifester la gloire de Dieu. Dieu, il nous a créés pour sa gloire. Comme on l'a vu, on dit Dieu est amour. Mais avant que la création de toutes choses, avant la création des anges ou la création des hommes, est-ce que Dieu était amour? Lorsqu'on dit que Dieu est amour, c'est qu'il manifeste son amour. Alors, il a désiré ardemment répandre son amour. C'est pour ça qu'il a commencé à créer les anges et l'homme. Et l'humanité. Et nous, nous avons été créés à la louange pour que nous servions à la louange de notre Dieu. Comme c'est lui qui a écrit ses livres, pourquoi il l'a écrit? Est-ce qu'il l'a écrit pour lui? Non, il l'a écrit pour que ces enseignements que le Seigneur lui a donnés, ils puissent nous être utiles à la gloire de Dieu. Et c'est exactement ce que ça signifie. Judas, hein? Judas, pourquoi il est important Judas? Parce que vous savez que de Judas, de la tribu de Judas, Jésus, il est venu. Le salut vient des Juifs. Hein? Dieu, il s'est proposé de grandes choses en Judas. Comme Dieu, il se propose de grandes choses pour chacun de nous. Jérémie, il nous dit que l'Éternel, il a un avenir pour tous ceux qui lui appartiennent. Si on donne notre cœur au Seigneur, nous avons un avenir. Demandez à ceux qui n'ont pas le Seigneur dans le cœur, quel est ton avenir? Ah, je ne sais pas moi. Ça dépend de comment ça tourne ma vie. Mais l'avenir pour tous ceux qui appartiennent au Seigneur, c'est un avenir glorieux. C'est la même chose qui est arrivée à Judas. Il avait de grandes choses parce que de Judas, il devait sortir le Messie. Mais il y a eu un changement. Judas, au commencement, un peu comme son frère, il a dit, il est notre chair, il est notre frère. Il avait conscience de cela. Vous en souvenez, quelqu'un qui a dit ça? C'est Caïn. Dieu, il a dit, où est ton frère? Et il a dit, j'en sais rien, moi, dois-je m'occuper de mon frère? Oui, on doit s'occuper de notre frère. Parce que Dieu, il l'a placé à côté de nous pour que nous puissions intervenir en sa faveur. Vous savez, il y a beaucoup de gens ici. Excusez-moi si je vais être un peu long dans mon message. Mais j'ai des choses que Dieu a mis dans mon cœur et je suis obligé de vous le dire. Dieu, il a mis en notre possession des richesses. Ici, peut-être qu'ils ont des comptes en banque, il y a des millions, je ne sais pas. Mais Dieu, vous a donné tout cet argent pour que vous puissiez l'employer pour la gloire de Dieu et pas vivre pour vous-même. Le Seigneur, il appelait cela les richesses injustes. Pourquoi injustes? Parce que le Seigneur, il nous les donne, mais nous ne les méritons pas. Un peu comme la parabole que le Seigneur, il a donnée avec l'économe injuste, vous en souvenez, qu'avec l'argent de son maître, il l'a utilisé pour lui-même, pour faire du bien. Hein? C'est-à-dire qu'à un certain moment, quelqu'un lui devait 100 euros, il a été le voir, il a dit, tiens, écoute, tu marqueras 50. Comme ça, tu vas te souvenir de moi. Il ne faisait pas bien, et le Seigneur, il l'a même repris. Mais de cette idée-là, il a utilisé pour nous dire que ces richesses que Dieu il nous donne, nous devons les employer pour le bien de notre frère et de notre sœur. Il y a des frères et sœurs qui, même dans notre Église, peut-être qui sont dans les besoins, ce n'est pas peut-être, il y en a qui sont dans les besoins, mais ils n'osent pas le dire. Ce que nous avons, nous devons le mettre à la disposition de nos frères et sœurs. Premièrement, de ceux qui sont en Christ. Premièrement. Parce que nous sommes responsables de nos frères et de nos sœurs. Voilà ce qu'il a dit Judas. Il est notre frère, il est notre chair. Tout semble positif en Judas, qui refuse de tuer Joseph. Il refuse. Hein? Et qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'une fois que ses frères, ils l'ont vendu pour 20 cycles d'argent, il n'a plus rien dit. Et là encore, ça nous rappelle quelqu'un qui a été vendu, pas pour 20, mais pour 30 cycles d'argent. Et c'est notre Seigneur, Jésus-Christ. Voilà pourquoi c'est, il aimait son frère, mais pas tout à fait. Il a suffi qu'il y ait un peu d'argent, de richesse, pour qu'il se mette du côté de ses frères. Et il y a un verset fort qui nous dit, où est-ce que je l'ai marqué là? Il dit que l'argent, c'est la racine de tous les maux. Lorsqu'on met l'argent dans notre vie chrétienne, alors là, ça gâche tout. Le Seigneur appelle ça maman. Maman. Donc Judas, il était quelqu'un d'échangeant. Mais vous savez, Judas, c'est quelque chose que vous devez bien prendre note aussi. Jusqu'au chapitre 50, de 37, il parle toujours de Joseph. Le chapitre 38, Joseph, il n'est pas nommé du tout. Pourquoi? On voit dans le chapitre 37, Judas. Judas qui aimait son frère, mais ça suffit un peu d'argent. Et il a tout lâché. Mais dans le chapitre 38, on voit ce qui a causé le changement dans la vie de Judas. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Judas, il s'est marié avec une Cananéenne. Il a eu 3 enfants. Un de ses enfants, il s'est marié avec Tamar. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Que son fils, il est mort. Le mari de Tamar est mort. Alors, à cette époque-là, le frère, il devait assurer la postérité du premier. Alors, Judas, il a donné le second. Et le second aussi, il est mort, sans donner le... Et alors, il y avait un troisième. Et ce troisième-là, Judas, il ne lui a pas donné. Alors, Tamar, il a dit, mais il faut bien que j'ai un fils. Et alors, il s'est habillé en prostituée. Et il était sur le chemin où Judas, son beau-frère, son beau-père, il allait tendre les troupeaux. Et c'est là qu'il s'est offert à son beau-père. Son beau-père, il ne l'a pas reconnu. Alors il l'a invité, il lui a dit, tiens, voilà, couchons ensemble. Il a dit, non, j'ai pas d'argent. Judas, il a dit, j'ai pas d'argent. Il a dit, donne-moi quelque chose, donne-moi ton anneau ou ton bâton. Et voilà, ça me suffit. Et il lui a donné et il a couché avec. Donc, qu'est-ce qui lui est arrivé? C'est que Tamar, elle a eu un enfant. Alors, Judas, lorsqu'il a su, il a dit, oui, tu t'es prostitué, je vais te tuer. Tamar, il a dit, je vais te montrer qui c'est qui a couché avec moi, qui c'est le père de cet enfant. Là, voilà, c'est lui à qui ils appartiennent ces choses-là, c'est lui. Judas, c'est là qu'elle a dit, elle est plus juste que moi. Il a eu une repentance plus profonde de lui-même. Voilà pourquoi il y a ce chapitre 38. Où Joseph n'est pas nommé. Si vous prenez le chapitre 39, il reprend l'histoire de Joseph. Ça, c'est pour nous montrer que lorsqu'il y a une repentance, Dieu, il change nos vies. Dieu, il change notre cœur. Voilà pourquoi il y a la différence. Vous savez, Judas, le nom dans les Grecs, la traduction de Judas dans le grec, c'est Judas. Mais la différence entre les deux, c'est que Judas ne s'est pas repenti. Tandis que Judas, oui, il se repentit. Et lorsqu'on se repentit, le Seigneur, il accorde son pardon, sa grâce. Avant, il pensait qu'à lui, Judas. Par la suite, au chapitre 40, je crois que c'est, il pense aux autres. Pourquoi ? Parce qu'il est converti, parce qu'il s'est repenti. D'ailleurs, il a mis sa vie et ses enfants à Jacob, parce qu'à un certain moment, on va le voir par la suite, Joseph, en sachant que son frère Benjamin, il était vivant, il a dit, retournez chez votre père et revenez avec Benjamin, le plus petit. Alors Jacob ne voulait pas l'envoyer. Et Judas, il a dit, voilà, je te donne ma vie. Si je ne reviens pas avec l'enfant, c'est ma vie qu'il te donne. Et c'est pour ça. Pour vous dire que lorsqu'on est chrétien, on donne notre vie, comme il a fait le Seigneur Jésus. Voilà ce que Judas, il nous apprend. Hein? Moi, je réponds pour lui, il a dit Judas à son père. Et qu'est-ce qu'il a fait, Jésus? Il a répondu pour nous. Nous sommes des pécheurs. C'est la croix, c'était pour nous. Ce n'était pas pour Jésus. Mais il est mort à notre place. Et il a répondu pour nous. La loi, il nous disait, tous, ils sont pécheurs. Tous, vous devez mourir, car on ne peut pas observer la loi. Mais Jésus, il est venu, il a observé sa loi, et il nous a dit que la malédiction qui pesait sur nous est tombée sur lui. Voilà pourquoi nous avons la vie éternelle. Parce que Jésus, il a répondu pour nous. Et ensuite, il y a les Madianites et les Ismaélites. Je ne sais pas si vous vous êtes renseigné qui étaient ces gens-là. Hein? Le verset 28, hein? Ces gens n'avaient aucune relation avec Joseph, mais ils étaient des parents, éloignés, mais des parents. Hein? En effet, Ismaël, que c'est le père des Ismaélites, hein? Vous savez bien ce qui est arrivé. Hein? Ils étaient deux peuples, Ismaélites et Madianites, qui descendaient d'Abraham. Ismaël, c'est le premier fils qu'Abraham il a eu par Agar. C'est le fils de la désobéissance d'Abraham. Ce n'était pas l'enfant que Dieu lui avait promis de Sarah. Qu'est-ce qui est arrivé avec Ismaël? Qui c'est qui descend d'Ismaël? C'est les Arabes. Vous vous rendez compte qu'est-ce qui est arrivé à cause de la désobéissance d'Abraham? Si Abraham il n'avait pas suivi la vie de sa femme, il n'y aurait pas eu d'Arabe. Le péché, il nous rattrape toujours. Toujours. Les conséquences du péché, il nous rattrape toujours. À cause d'Abraham, regardez ce qui est en train de se passer à Jérusalem. Ça, c'est tous des Ismaélites, c'est les Arabes. Je ne dis pas qu'ils sont des gens mauvais. Je vous dis simplement où est-ce qu'il a commencé ça. Par un péché. À cause de cela, Abraham qui couche avec Agar, il est né Ismaël. Et c'est le père. S'il n'aurait pas fait avec Agar, il n'y aurait eu que Isaac, le fils de la promesse. Et ensuite, il y a les Madianites, qui étaient Madian. Voilà, Madian, c'était le fils d'Abraham, mais pas par Sarah. Mais une fois que Sarah est décédée, il a pris une autre femme qui s'appelait Keturah. Donc, vous voyez, ils étaient des gens qui étaient de la même famille que Joseph. Mais eux, ils ne le savaient pas. Mais ils étaient de la famille d'Abraham. Et des fois, on voit dans notre propre vie que des fois, on n'a pas dans notre cœur des frères et sœurs. On les traite avec dédain. Des fois, on ne peut même pas les voir. On les voit arriver d'un côté et on passe à l'autre côté. Ce n'est pas la façon de faire. Nous avons en nous l'amour de Dieu. Dieu a répandu dans nos cœurs son amour. Et nous devons manifester tout autour de nous cet amour. Voilà pourquoi c'est très important de se dire que si le Seigneur nous a donné des frères et sœurs, c'est parce que nous en avons besoin. Le Seigneur nous a donné une autre famille. Et cette famille, c'est l'Église. C'est l'Église, car c'est là qui se déversent les bénédictions de Dieu. Et quatrièmement, il y a les frères de Joseph. Ils sont tous des matérialistes, un peu comme Judas. Voilà, il a suffi qu'on leur donne de l'argent, et voilà. Ils ont oublié leur frère. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Judas, il a fait ça, n'est-ce pas? On lui a donné de l'argent, et il a oublié. Et pourtant, il est resté 3 ans et demi avec le Seigneur. Judas, il est parti, à un certain moment, le Seigneur, il les avait envoyés 2 par 2 pour propager la bonne nouvelle du royaume, le salut en Jésus-Christ. Et je suis sûr qu'il a même accompli des miracles. Parce qu'il nous a dit qu'ils accomplissaient des miracles, ils faisaient des guérisons. Donc, ils croyaient à ce que Jésus, mais il a suffi un peu d'argent. Et tout de suite, il est tombé. Et les frères, ils étaient pareillement des matérialistes qui ne regardaient qu'à ce qu'ils avaient. Peut-être vous avez des maisons, des grandes possessions. Dans peu de temps, vous n'aurez plus rien. Parce que Pierre, il nous dit que toutes les choses de ce monde, ils vont se... Le Seigneur, il va enlever toutes ces choses. Donc, c'est confié dans les richesses, c'est quelque chose qui ne vaut pas. Ils ont reçu l'argent et la Bible, le Nouveau Testament, ils nous ont dit dans Philippiens 3, 19, il y a des gens, ils ont pour Dieu leur ventre. D'ailleurs, qu'est-ce qu'ils ont fait les frères de Joseph? Une fois qu'ils l'ont vendu, c'est clair et c'est net, ils s'assirent pour manger. Ça ne s'est rien passé. On a vendu notre frère, ça ne s'est rien passé. Des matérialistes, c'est une image de temps actuel. Aujourd'hui, si tu as, tu es bien vu. Si tu n'as pas, on ne te voit même pas. Le matérialisme, c'est quelque chose d'affreux. On a vu hier, hein, avec le chanteur Johnny, n'est-ce pas? Les gens, on t'adore, on te vénère, hein, on se retrouvera au ciel. Voilà. Ça, c'est le monde d'aujourd'hui. Hein. Ce matin, à la radio, il dit, avec Saint-Augustin, il a dit, chantez ces prières. Et il a parlé de Johnny, qu'il a fait une chanson, Marie. Oh Marie, c'est ça. Voilà. Et alors cet homme-là, il a dit, voilà, c'est en l'honneur de la Vierge Marie. C'est pas possible de dire ça à mes enfants. Je suis pas là pour juger qui que ce soit, parce que c'est pas à moi ou à nous de juger. Comme Drucker, ah Johnny, on va se revoir là-haut. Je ne dis pas que Johnny était sauvé ou perdu, mais bibliquement, il a divorcé 4 fois. Mais nous savons que si on demande pardon, Dieu nous pardonne. Il ne faut pas voir les choses selon les yeux du monde, mais il faut voir les choses selon Dieu. Et il y a des choses qu'on ne peut pas utiliser pour Dieu et pour l'homme. Il y a des termes qu'il faut les utiliser que pour Dieu, pas pour les hommes. Car il n'y a que lui qui connaît le cœur des hommes. Nous sommes portés facilement. Hein. Ah, celui-là, il ne fait pas ça, il est perdu, il n'est pas sauvé. Qu'est-ce que tu en sais? Laisse Dieu juger. Parce que c'est lui-même qui l'a dit. À moi, le jugement. Qui es-tu, homme, pour juger ton frère, ta sœur? Laisse Dieu juger. Car vous savez, les apparences trompent. Il y a eu Samuel, n'est-ce pas, lorsqu'il devait oindre le roi. Il a été chez Isaïe et il a dit, où est-ce qu'ils sont tes fils? Il en avait sept. Les six frères, ils sont venus. Non, c'est lui-là, non, c'est pas lui, c'est pas lui. Il en avait un grand. Samuel a dit à lui-même, hein, je vois que c'est lui. Là. Il passe, il a dit, non, non, c'est pas lui. Et il a dit, comment Dieu, il m'a envoyé ici pour oindre le roi. Et il a dit, mais est-ce que tu as encore un? Oui, j'en ai un, mais il est en train de paître les troupeaux, là. Appelle-le. Et c'est David. Dieu ne regarde pas l'apparence. Dieu regarde le cœur. Paul, il avait dit, il a dit, mais je m'en fous hautement de ce qu'ils vont penser de moi. C'est ce qui m'intéresse. C'est ce que Dieu pense de moi. C'est ce qui compte. Voilà pourquoi ils étaient des matérialistes. Et alors, pour terminer, à quelle catégorie de personnes appartenons-nous? Judas, Rouben, l'homme au cœur partagé. Judas, l'hypocrite. Mais les Madianites, les Ismaélites, des incrédules. Ils étaient dans la famille de Dieu, mais ils étaient incrédules. Et quatrièmement, les neuf frères, qu'ils se contentent de suivre. Voilà, je suis dans la famille de Dieu et je suis comme tout le monde. Ils croivent suivre, ils croivent d'être dans la famille, mais ils sont en dehors s'ils ne partagent pas cette foi en Dieu. Voilà pourquoi c'est très important. Joseph, il était au milieu de ces gens qui pleuraient, qui imploraient. Ne me faites pas de mal, parce qu'ils savaient ce qu'ils voulaient leur faire. Hein. Et un peu comme le Seigneur Jésus, n'est-ce pas? Il a supplié de l'accepter. De croire à ce qu'il était. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas tenu compte de ces choses-là. Et vous savez, il y a deux choses que les Ismaélites et le Madianite, ils transportaient. Ils étaient des commerçants. Et ils transportaient des épices, du baume et de la myrrhe. Et ces trois choses, ils représentent le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui vient en chacun de nous, un jour il est venu et nous a convaincus de péché. Et c'est avec cette conviction que nous avons pu nous tourner vers cette croix. D'ailleurs, il y a un verset dans Jérémie 8 qui dit, « N'y a-t-il pas de baume en Galaad ?» C'est-à-dire, il n'y a pas de guérison, il n'y a pas de salut en Galaad. Non, il y a. C'est baume, il y a ce parfum. Et dans Cantique, il nous est dit, ton nom est un parfum répandu. Qui sait ce nom? C'est le nom de Jésus-Christ, qui est toujours là pour sauver, qui est toujours là pour nous enlever des griffes de Satan. Et c'est pour ça qu'il est descendu. Donc, à chacun de nous d'implorer ce nom. Car celui qui croit à Jésus a la vie éternelle. Est-ce que vous avez la vie éternelle? Et ça, c'est une réponse que je ne peux pas donner pour vous. Je peux la donner pour moi, oui. Mais ça, c'est à chacun de vous de donner cette réponse. Et cela, encore une fois, ça dépend que de vous. Que le Seigneur nous aide à prendre cette bonne et dernière décision par laquelle Le Seigneur nous a sauvés. Amen.
Amen.
Jocelyn, tu